Podcast Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 25. Le réseau Jimmy Savile, BBC, Dolphin Square. Un point sur le réseau pédophile d'élite en Angleterre. Les sévices sociaux au service des pédos. La police sera en train d'enquêter sur pas un, ni deux, mais au moins cinq réseaux pédophiles impliquant des députés à Westminster, le quartier du Parlement et du Dolphin Square. Un député a souligné que, je cite, la complexité des réseaux d'abuseurs d'enfants au cœur du gouvernement dans les années 70 et 80 a été largement sous-estimée. C'est le moins qu'on puisse dire. Selon lui, 14 qui ont été identifiés étaient des députés conservateurs, 5 du Labour et 3 d'autres partis. Il y a aussi 13 anciens ministres dans la liste. Et voici notamment une liste très complète, vous pouvez trouver l'article qui est sur le site. Que s'est-il passé dans les orphelinats du Pays de Galles et ailleurs en Angleterre? Depuis que le scandale Jimmy Savile a explosé, on dirait que la parole se libère. Des hommes politiques anciens et encore en vue sont cités, on parle de protection et on revient sur certaines affaires un peu trop vite enterrées. Comme celle des orphelinats du Pays de Galles qui a défrayé les chroniques dans les années 90. Les choses sont graves et en Angleterre comme en France, on commence à parler de pédophilie institutionnelle. Reprenons. Il a fallu 3 ans d'investigation et 13 millions de livres sterling de dépensés pour finir par conclure que tout compte fait, il ne s'est rien passé, ou presque dans les orphelinats. Les recherches portaient sur de nombreuses allégations d'abus sexuels et de violences commis dans 2 comtés du nord du Pays de Galles, presque toujours sur des garçons. L'orphelinat de Bryn Estyn, à Wrexham, figurait parmi les hauts lieux de sévices entre 1974 et sa fermeture en 1984. D'ailleurs, Jimmy Savile y avait ses petites habitudes, selon plusieurs victimes. Pendant toutes ces années, les dénonciations n'ont jamais cessé, presque toujours enterrées par les personnes impliquées et leurs amis. Au milieu des années 80, une certaine Alison Taylor, éducatrice dans un de ces orphelinats, commence à entendre un certain nombre de témoignages, tous similaires, évoquant des abus sexuels dans différents foyers. Elle se rend compte que plusieurs rapports ont été rédigés par des travailleurs sociaux, mais qu'aucune procédure disciplinaire n'a jamais suivi. Taylor saisit donc sa hiérarchie au sujet de 6 enfants dont les cas sont bien documentés, mais, aux surprises, c'est elle qui a des ennuis. Et rien ne se passe, faut-il encore le préciser. En 86, Alison Taylor raconte donc tout aux flics. Mais rien ne se passe. Et Taylor est suspendue en 87 au motif de que la communication est rompue entre elle et ses collègues. Waouh. En réalité, dès qu'elle signalait des maltraitances, cela se retournait contre elle. Cependant, l'administration tente de lui faire signer plusieurs accords afin d'acheter son silence. Elle refuse et se fait aider par son syndicat pour obtenir des dédommagements. Et un accord est finalement signé en 89, s'accompagnant d'une clause de confidentialité. Donc juste là, on retrouve vraiment le droit anglo-saxon comme aux États-Unis, où en fait, bah, il suffit de payer, de faire des accords à l'amiable, et puis on achète le silence des gens, et on évite les procès. C'est vraiment tout à fait classique, ce qui fait que bah, les riches, en fait, n'ont jamais de condamnation. C'est bien. En 90, une enquête est ouverte par un inspecteur du coin, mais il a beaucoup de mal à avancer en raison d'une mauvaise volonté flagrante du personnel des foyers et orphelinats mis en cause. Finalement, ce flic ne trouve pas assez d'éléments pour gagner un procès, et on ne va pas plus loin. Pendant ce temps-là, Taylor continue sa campagne médiatique, frappant à la porte de tous les médias locaux et nationaux qui voulaient bien la laisser parler. Petit à petit, d'anciennes victimes entrent en contact avec elle, si bien qu'en 91, elle publie un rapport reprenant 100 de cas d'abus sexuels. Parmi ces 100 cas, 75 avaient déjà été soumis à la police. Quelques travailleurs sociaux du coin ont aussi été condamnés pour des abus sexuels, mais on n'a pas du tout approfondi les recherches. Fin 91, Denis Perry, le chef du conseil de Clyde, donc c'est comme une sorte de maire de la ville au Pays de Galles, contacte l'Independent on Sunday, un journal, et déclare que l'ancien chef de Bryn Estyn, Peter Howarth, était un pédophile. Il parle aussi d'un flic récemment retraité comme complice du réseau qui opérait à partir de Bryn Estyn et comme l'un de ceux qui ont permis de couvrir l'affaire. Menée par Sir Waterhouse, un juge à la retraite, une enquête liée à ces accusations a été lancée en janvier 1997 et publiée en 2000, et tous les pervers savaient qu'ils pouvaient dormir tranquille. Toutefois, 140 victimes ont reçu une compensation de l'État, quand même. Donc compensation pour quelque chose qui n'est jamais arrivé, hein, bien sûr, comme à outreau. Cela va sans dire, le franc-maçon Waterhouse n'a cessé de dénigrer Alison Taylor, l'épine dans le pied des puissants pédophiles locaux et même nationaux. Selon Waterhouse, sans Taylor, il n'y aurait jamais eu d'enquête et les choses auraient été bien mieux. Dès le départ, les médias ont été menacés de poursuites s'ils sous-entendaient que les abus sexuels dans les orphelinats étaient plus importants que ne le disait la commission. Plus de 650 personnes ont été entendues, dont 250 victimes. Le rapport était prêt en mai 1998, mais il a fallu un an pour l'arranger. Au final, 700 accusations d'abus sexuels impliquant 170 personnes, dont plus de 80 étaient des employés des foyers ou des enseignants. Bizarrement, seules 25 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Et la majorité a été libérée sans aucune charge, puisque les seuls condamnés ont été, donc le seul condamné a été Howarth. Et John Allen, aussi, l'ancien propriétaire de Brinestein. Publié en 2000, l'enquête Waterhouse conclut qu'il n'y a aucune preuve étayant des protections ou un système d'abus à grande échelle. Pour Waterhouse, tous ces cas d'abus sont isolés. Ben bien sûr. Et bien sûr, aucune personnalité n'est impliquée. Mais on fait toute une série de « recommandations » entre guillemets qui ne seront que très peu suivies des faits. Et Waterhouse a toujours dit que son travail avait été très bien fait, ce qui aujourd'hui fait grincer beaucoup de dents. En fait, alors qu'on demandait à ce tribunal de dire ce qui n'avait pas fonctionné dans les Holmes du Pays de Galles, celui-ci s'est attaché à démonter les accusations des victimes. Quant aux témoins, certains n'ont même pas été entendus, comme un ex-patron de Brinestein, Death Forest, qui a pourtant été parmi ceux qui ont dénoncé les faits en premier. Entre 90 et 96, une dizaine d'enquêtes publiques sont menées sur ces foyers. Plusieurs rapports sont publiés, révélant des abus à grande échelle sur les petits pensionnaires des Holmes, donc des foyers pour mineurs du Pays de Galles, et orphelinat. L'une de ces enquêtes, publiée en 1993, reprend 2600 témoignages et 300 cas d'abus sont envoyés à la justice. Et devinez combien de personnes ont été poursuivies et condamnées ? 7, dont 3 éducateurs de Brinestein. Et Peter Howarth, ex-dirigeant de ce bordel pour pédodélite, a ramassé 10 ans de prison en 1994. Il a eu de la chance, il est mort 3 ans plus tard. Stephen Norris, autre dirigeant de Brinestein, a été condamné aussi pour les mêmes faits. Si la commission Waterhouse a été aussi inepte, c'est parce que les francs-maçons ont aidé leurs congénères, d'après certaines affirmations. Certains parlent même de « Masonic Connection », donc de connexion maçonnique. Dès la première audience de ce pseudo-tribunal, le conseil de certaines victimes, donc l'avocat Nick Booth, a demandé que le tribunal fasse une liste des francs-maçons qui le composent, mais aussi des francs-maçons présents parmi les avocats et les témoins. On rêve de ça en France, non ? De fait, la franc-maçonnerie est très pratique pour étouffer les affaires judiciaires, les accointances et intérêts particuliers primant systématiquement sur l'intérêt général. Booth expliquait, je cite, le devoir de loyauté d'un frère maçon et son devoir d'impartialité s'il est impliqué dans l'administration judiciaire doivent être mis sur la place publique. Fin de citation. Donc juste pour étayer sur ce sujet, en fait un frère franc-maçon a le devoir de protection et d'entraide envers n'importe quel frère franc-maçon et cela prime sur tout, y compris la loi. Voilà. Alors c'est pas toujours effectif, hein. Y a quand même certains qui sentent bien que l'autre quand il s'est foutu dans la mouise et qu'il est pas très influent, on va plutôt le laisser tomber, hein. On a pas mal d'exemples où il y a des francs-maçons qui se font laisser tomber par leurs frères, mais néanmoins c'est censé être les règles, c'est la théorie. Voilà. Donc ça pose quand même un très gros problème dans un état de droit qu'on appelle républicain, etc. Égalitariste. Continuons. Évidemment, Waterhouse a refusé de mettre en place cette transparence, pourtant élémentaire dans un pays qui se veut un état de droit. L'avocat Gérard Elias, mandaté par le parquet pour être conseiller du tribunal, est franc-maçon et membre d'une des loges les plus puissantes du Pays de Galles, appelée Dinas Landaff, composée de nombreux professionnels du droit et de membres du parti conservateur. De même que Waterhouse lui-même. Le Gilling Report, le rapport Gillings. Dans les années 90, certaines accusations portaient sur des flics qui avaient couvert le réseau pédophile opérant dans les orphelinats. On ordonne donc un nouveau rapport et on mandate Gillings, ex-directeur des services sociaux, pour la mener. Mais les membres de cette commission doivent faire face aux mêmes freins que lors des enquêtes précédentes. Les nouveaux flics du Pays de Galles refusent de les rencontrer, si bien que les députés doivent réunir eux-mêmes les témoignages. 130 cartons de matériel ont été soustraits aux investigations. Le conseil du comté de Clyde, n'a pas autorisé les enquêteurs à placer des encarts dans la presse afin de rechercher des informations, donc de faire des appels à témoins. On rêve. Ils ont ce pouvoir, c'est incroyable. Ce rapport qui étudiait les abus dans les orphelinats de Clyde finit quand même par conclure que des personnalités sont impliquées dans les scandales des abus sexuels qui sont monnaie courante dans les orphelinats. Le rapport note aussi que les enfants qui se plaignent ne sont jamais crus, et sont même punis pour avoir fait de fausses allégations. On ne sait pas non plus combien d'enfants ont été violés, mais on estime qu'ils sont plus de 200 au début des années 90. Au moins une douzaine d'anciens résidents sont morts de causes non naturelles. Comme les frères John, par exemple, en 92, Adrian John, témoin clé dans l'affaire des abus sexuels commis à Brinestein, meurt dans l'incendie très suspect de sa maison. Et comme par hasard, on s'est aperçu que son frère Lee a eu accès à des données montrant l'existence de transactions financières entre les dealers de la côte sud, de drogue, et les personnes qui gèrent un réseau de pédopornographie et de pédocriminalité. Évidemment, Lee est mort lui aussi en 95. Enfin, histoire de bien tourner la page, les employés impliqués ont été virés et on les a laissés partir avant la publication du rapport. Le rapport n'a pas été publié parce que, dit-on, l'assureur des comtés, Municipal Mutual Insurance, a dit que ça inciterait les victimes à demander des dommages et intérêts. Ah oui, et ça coûterait trop cher, donc on n'a pas publié. Magnifique. Toutes les copies du rapport ont été détruites et les exemplaires restants ont été envoyés au Children's Commissioner for Wales, Keith Towler. Au final, on doit constater l'écart flagrant entre le nombre de plaintes et le nombre de condamnations. Abus à grande échelle. Une quarantaine de homes et orphelinats sont concernés par des cas d'abus sexuels rien qu'au Pays de Galles. Dans la communauté de Bryn Alice, c'est le propriétaire lui-même qui a été le pervers le plus assidu, John Ernest Allen, qui s'est trouvé sous le coup de 28 plaintes d'anciens pensionnaires et a été condamné à 6 ans de prison pour des viols sur 6 anciens pensionnaires. C'est bien, un an de prison par viol, tranquillou. Avec les remises de peine, autant dire qu'il a vite pu recommencer ses horreurs. Le député en chef des écoles de la communauté a été condamné quant à lui à 6 mois de prison pour des viols sur une adolescente de moins de 16 ans. Richard Ernest Leake, autre chef d'établissement qui a fait fortune dans les orphelinats, était aussi parti pour un ersatz de procès suite à des viols commis entre 72 et 78. Pas moins de 16 anciens résidents l'ont accusé. Quant aux victimes, elles parlent d'abus complètement généralisés. Comme Keith Gregory, qui mentionne l'ancien dirigeant de Bryn Eyston, Peter Howarth, comme l'un des trois membres de ce home qui l'ont violé dans cet orphelinat. Entre-temps, Howarth a été envoyé pour 10 ans en prison en 1994 pour avoir violé des enfants et il y est mort. Gregory a témoigné devant la commission Waterhouse, mais il dit qu'on ne l'a pas cru, malgré les éléments donnés, tels que les noms des abuseurs qu'il avait reconnus. Gregory dit que les enfants craignaient chaque nuit d'être embarqués dans un appartement de l'orphelinat pour y être violés par les membres du personnel et ou par des visiteurs. Gregory a d'ailleurs croisé Jimmy Savile à Bryn Eyston ainsi que son frère Johnny. Certains enfants, comme Stephen Messam, qui préside l'association des victimes des orphelinats, étaient emmenés dans des hôtels où il était prostitué et violé par des groupes de personnes. Messam, lui, doit avoir subi des viols dans 4 orphelinats différents du Pays de Galles, puisqu'il était transféré de l'un à l'autre. D'autres victimes ont nommé un ancien député conservateur, Sir Peter Morrison, mort en 1995. Il y avait, comme à Haut-de-la-Garenne, l'orphelinat de Jersey, un sous-sol dans lequel avaient lieu des partouzes. Je vous renvoie au podcast consacré particulièrement donc aux orphelinats de Jersey. À Bryn Eyston, des enfants étaient probablement drogués avant les viols. Certains enfants, dont les parents étaient morts dans, je cite, « d'horribles circonstances », étaient pris pour cible davantage après le décès de leurs parents. Et certains gamins jetés dehors à leur majorité, sans argent, n'ont rien eu d'autre à faire que de continuer sur la même voie, en se prostituant à Londres ou Manchester. Plusieurs victimes ont aussi désigné un certain Gordon Anglesey, surintendant de police, comme l'un des abuseurs de Bryn Eyston. Lui aussi, accessoirement, était franc-maçon à la loge Berwyn à Wrexham depuis 82, puis à la loge Pegasus. Et il semble bien qu'Anglesey était loin d'être le seul impliqué dans ce réseau pédophile opérant dans les orphelinats. À l'époque des investigations, entre guillemets, de la commission Waterhouse, les victimes n'ont pas été autorisées par les flics à nommer ces visiteurs ni aucune personnalité publique impliquée. Ah oui, ça c'est vraiment une enquête. Et les accusations de Messam ont été jugées inconsistantes. Ah bah oui, si on t'interdit de donner des circonstances, c'est quand même magnifique. Parmi ces visiteurs, les journalistes de Scallywag ont identifié Derek Laud, un lobbyiste très proche du parti conservateur dont il est membre, qui donne aussi dans la charité et a été décrit comme un sadique par ses victimes. Laud tient une boîte de communication, Ludgate Communications, qui fournissait de jeunes garçons pris dans des orphelinats aux élus conservateurs. L'appartement de Laud à Pimlico, donc un quartier de Londres, était un lieu d'orgie sexuelle pédophile où une victime a déclaré avoir vu un certain Lord McAlpine, dont on va reparler plus tard. Enfin, la liste des pédophiles membres de la classe politique anglaise est longue et a tendance à se rallonger. Et en 2012, on repart pour un tour. Tout avait donc été fait pour enterrer l'affaire et pour éviter qu'on inquiète ces pédophiles et cocaïnés qui dirigent le pays. Oui, mais voilà, en novembre 2012, suite au scandale Saville et aux nombreuses accusations connexes visant la classe politique, le Premier ministre David Cameron n'avait d'autre choix que de rouvrir ce dossier. Il a dit que toutes les victimes devraient aller signaler les faits à la police, comme si cela n'avait pas déjà été fait. On va aussi nommer une personnalité indépendante, du moins on l'espère, qu'elle le sera davantage que Waterhouse, afin de voir ce qui a été couvert dans les années 90. Et surtout, pour savoir ce qu'il a pu se passer à l'extérieur des homes. Une des victimes, Stephen Messam, s'étonne, je cite, « Je ne comprends pas pourquoi on a fait une enquête si c'est pour laisser de côté 30% des abuseurs et basiquement ce qu'on m'a dit de faire. On m'a dit que je ne pouvais pas donner de détails sur ces gens, que je ne pouvais pas les citer et ils ne m'ont pas questionné à leur sujet. » Fin de citation. Mais Sam n'a eu aucune explication, on lui a seulement dit de ne pas les mentionner. Surtout, mais Sam avait une série de photos prises lors des viols, des photos qu'il a volées dans l'appartement d'un pédophile et qu'il a données à la police, car tout le monde était parfaitement identifiable. Devinez ce qui s'est passé ensuite? Rien. Les flics ont dit que les abuseurs n'étaient pas identifiables. Ah oui. Depuis qu'il a commencé à parler publiquement, des dizaines d'autres victimes ont contacté les flics. Keith Gregory, conseiller à Wrexham, a dit à la BBC qu'il avait été violé à Brynestin dans les années 70 par des membres du personnel et des personnalités locales. Il dit qu'il a été choqué de constater que la commission Waterhouse, je cite, n'a pas enquêté sur les accusations d'enfants qui avaient été emmenés hors des orphelinats. Ah oui. Mais toutes ces fautes de la commission Waterhouse, on les connaissait déjà en 2005, et on risque bien d'y revenir. Une ancienne chef du personnel du comté de Clyde, qui a suivi toute l'affaire depuis le début, Sian Griffiths, a gardé tous les témoignages des victimes et toutes les preuves qui ont été examinées par les différentes commissions avant de les passer à la trappe. Donc elle a tout bien archivé. Elle dit que certains protagonistes sont toujours vivants et que pour faire en sorte qu'on ne trouve pas assez de preuves d'abus sexuels, par exemple contre un certain Thomas Kenyon, fils de député, eh bien la police a tout simplement fait disparaître les preuves. De fait, environ la moitié des personnes citées par les victimes n'ont jamais été inquiétées. Madame Justice McCour a donc été chargée par Cameron de vérifier si les fautes n'auraient pas été commises par la commission Waterhouse. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. Les flics censés enquêter sur le réseau pédophile gouvernemental, puisqu'il s'agit bien de cela, se sont déjà entendus dire qu'il ferait mieux de ne pas chercher s'ils veulent garder leur job. Et les lords, comme un certain Lord Pierce par exemple, sont déjà pressés qu'on en finisse avec cette affaire. Au motif que d'innocentes personnalités seraient mises en cause injustement, de même que des institutions évidemment irréprochables. Tout ça, si on les écoute, ce sont des accusations, ce sont des théories du complot, voire même des chasses aux sorcières qui atteignent à la réputation des gens, des honnêtes gens, blablabla. Mais ces théories ont la dent dure, pour revenir à la surface, à chaque décennie. Jimmy Savile Connection. Et les délires de Savile, ont-ils été couverts eux aussi? Il semble bien. Les flics du Yorkshire, par exemple, ont déclaré officiellement qu'il était impossible qu'ils ne sachent pas ce qu'avait pu faire Savile, impliquant que Savile n'avait donc certainement rien fait. C'est magnifique. Il aurait fait tellement de choses que ça aurait été impossible qu'ils ne le sachent pas, et comme ils ne le savent pas, c'est que rien n'est arrivé. Ah ben là, on est quand même dans une magnifique logique extraordinaire. Et surtout absurde. Continuons. Pas de chance, les journaux ont mené leur propre enquête et ont découvert que les flics savaient très bien que Savile violait des gamines. D'ailleurs, son émission TV lui permettait un accès privilégié à des gamines de l'âge qu'il recherchait. Les flics ont même mené l'enquête à ce sujet en 2003. Mollement certes, mais ils étaient au courant. Et ils savaient même que le pied-à-terre de Savile à Glencoe était une scène de crime. On peut s'étonner de ce manque de zèle, d'autant que l'affaire faisait jaser dans les chaumières. Finalement, les flics ont conclu que Savile n'avait aucune connexion locale. Ah oui, bien sûr. Mais pas de chance, en octobre 2012, deux victimes parlent de viol commis par Savile dans la région de Scarborough à la fin des années 60 et la fin des années 80. Je vous renvoie à un podcast consacré particulièrement au réseau Scarborough. Les médias ont aussi révélé la proximité de Savile avec quelques flics dans, entre guillemets, le club, c'est ainsi que s'appelait la bande de Savile à l'époque. Certains flics du Yorkshire, apparemment, lui servaient de garde du corps, alors que c'est évidemment interdit par le règlement. Et Savile était également un grand ami d'Israël. Il a reçu une médaille pour service rendu par l'État sioniste. Très proche du prince Charles et habitué de la cour. D'ailleurs, il a été anobli. Il est devenu lord anobli donc par la reine. Savile aurait même conseillé Charles lors de son mariage avec Diana ou quand il s'est agi de nommer un collaborateur proche. Enfin, Savile était appointé pour organiser les fêtes royales. Et quand il se baladait au palais, son comportement graveleux était le même qu'à la BBC, d'après un membre du staff royal. Savile était également proche du prince Philippe, le père de Charles. Apparemment, c'est Lord Mountbatten qui avait introduit Savile à la cour en 1966. D'ailleurs, Mountbatten mérite une petite parenthèse. C'est un pédophile notoire qui a sévi notamment au King Cora Boys Home à Belfast dans les années 70 et 80, comme plein d'autres sommités de l'époque d'ailleurs. Je vous renvoie au podcast consacré à ce réseau, le réseau Cairns Born Again et du King Cora. On lui prête également une relation homosexuelle avec le roi Édouard VII. De là à dire que Savile fournissait la cour en enfants pour les orgies pédosatanistes tant en vogue dans une certaine catégorie de population, il n'y a qu'un pas, allègrement franchi par pas mal de gens. Un journaliste a même identifié 8 lieux à Scarborough et un à Whitby comme étant associés au réseau pédophile de Savile, composé de personnes d'influence et qui a sévi durant plus de 40 ans. 8 lieux dont 4 étaient soi-disant inconnus de la police. Sa ville, par ses œuvres de charité, pouvait rapporter des millions de livres à des institutions comme des hôpitaux ou des pensionnats. Et en échange, ceci lui fournissait une réserve sans fin de victimes pour ses partous pédophiles. Et puis, sa ville avait le droit de se balader où et quand il voulait dans cet établissement, puisqu'il en possédait les clés. Enfin, on a déjà évoqué la relation pour le moins amicale entre Saville et le tueur en série Peter Sutcliffe, qui était justement enfermé dans un hôpital de haute sécurité dont Saville détenait toutes les clés. Durant ses auditions, Sutcliffe a cité Saville plusieurs fois. Il se trouve que les investigations de la police ont montré que deux des victimes de Sutcliffe ont été retrouvées à proximité de la maison de Saville à Leeds. Et il ne faut pas croire que l'ère Saville est révolue. Aujourd'hui encore, des témoins parlent d'abus sexuels commis par les élites politiques du pays, mais aussi des juges et des politiciens européens. Et il semblerait même que des enfants soient amenés par avion depuis différents endroits d'Europe pour servir de chair fraîche lors des orgies de la bonne société anglaise. Faut-il préciser que le témoin qui a évoqué cela a disparu de la circulation? L'ère Saville n'est pas révolue, c'est une évidence. La BBC, qui doit mener une enquête sur le scandale de son ancienne star, a déjà annoncé que ses résultats resteront secrets. Ah bah c'est super! Bien que la chaîne ait promis d'agir en toute transparence. Mais oui. Et bien que l'enquête en question ait quand même déjà coûté au moins 200 000 livres sterling aux contribuables anglais, pour une vingtaine d'auditions de témoins et une enquête réduite à sa portion congrue. D'après d'autres témoins, ces messieurs étaient transportés hors de Londres par avion grâce à la Royal Air Force. Un autre encore déclare que des hommes riches venus de Belgique étaient également présents à Partouze. Lord McAlpin. Pas de bon scandale de pédophilie sans des accusés qui montent sur leur grand chevaux, drapés dans leur vertu mitée. Parmi la clique de pédophiles mentionnée dans les diverses investigations, un certain Lord McAlpin, ex-trésorier du Parti conservateur et gros pourvoyeur de fonds sous Thatcher. Plus ou moins disculpé par une victime du foyer de Brynestein qui dit qu'il ne entre guillemets, pense pas que McAlpin comptait parmi les violeurs des orphelinats, Mais c'est bien la police qui a glissé son nom dans les dossiers aux médias. Une autre victime de Brynestein, Stephen Messam, a déclaré que McAlpin n'est pas l'un de ses abuseurs. Mais il a aussi dit que la personne connue qu'il a violée en lui donnant son identité a bien expliqué aussi qu'il serait liquidé s'il parlait. Ah. Messam a donc déclaré, et déjà en 1997, lors de la commission Waterhouse, que le violeur en question était bien de la famille de McAlpin, mais qu'il est mort, ce qui n'est pas le cas de McAlpin. McAlpin vient de passer un accord avec la chaîne ITV, qui lui a versé 125 000 livres sterling de dommages et intérêts avant tout procès, car il avait évoqué ses connexions pédophiles. Vous pouvez retrouver ce documentaire ITV sur le mur vidéo, en anglais. Et voilà qu'il recommence à demander 185 000 livres sterling de dommages et intérêts à la BBC et menace de poursuivre tous ceux qui évoqueraient cette affaire, alors qu'il n'a jamais été nommé publiquement par Messam. Il poursuit aussi 10 000 personnes qui ont propagé l'info via Twitter. Et précisons au passage, il n'a pas poursuivi le magazine Scallywag, qui a détaillé ses penchants pédophiles dans les années 90. Il n'a pas non plus poursuivi David Icke, qui a mentionné les faits en 99 dans son livre The Biggest Secret. Sauf que l'histoire de cette mise en cause de McAlpin sent le coup monter à plein nez. En effet, rien de tel que d'impliquer quelqu'un qu'on va innocenter facilement pour jeter le bébé avec l'eau du bain et conclure qu'en réalité, tous les notables sont innocents. En l'occurrence, Messam avait reconnu McAlpin en 90, parce que les flics lui ont présenté une photo de son abuseur en lui disant qu'il s'agit d'une photo de McAlpin. Cette fois-ci, on lui aurait montré une autre photo de Lord McAlpin, et Messam a conclu que ce n'était pas le violeur. Eh oui, les regards se sont alors tournés vers le cousin McAlpin mort en 91, Jimmy, qui vivait à côté de Brynestein. Eh oui, il devait se ressembler un peu, et puis on l'a poussé à dire que c'était lui. De ce fait, certains s'interrogent, ne serait-ce pas un coup du MI6? On risque de ne jamais le savoir, car les photos Polaroid détenues par Messam et montrant certains des violeurs en pleine action ont été détruites. Comme ça. Et puis il y a ce livre, écrit par McAlpin, dans lequel il parle précisément d'une stratégie similaire. Il s'appelle « Le nouveau Machiavel, l'art de la politique dans le business ». Il y explique, par exemple, comment revenir sur le devant de la scène, notamment en suscitant de fausses accusations contre soi, et démontrer ensuite que c'est faux, en se faisant passer pour une pose victime. Ah ben voilà. Cela a aussi l'avantage de détourner l'opinion publique des victimes réelles, pour la focaliser sur un débat au niveau de la forme et pas du fond. Et ceux qui sont censés avoir porté les accusations sont discrédités, en l'occurrence ce pauvre Messam, qui n'a pourtant jamais dénoncé publiquement Lord McAlpin. Donc ça s'appelle un contre-feu. Ensuite, toutes les accusations qui seront portées contre cette personne seront prises avec énormément de pincettes. Et puis, être attaqué injustement ne peut qu'attirer la sympathie de l'opinion publique. Pour autant, il ne faudrait pas blanchir Lord McAlpin trop rapidement. En mai 2003, un quotidien londonien a écrit qu'il était ce, je cite, « collectionneur anonyme et bien connu de photographies érotiques dont certaines représentent des gamins prépubères ». Et McAlpin s'est empressé d'enlever cette information de sa page Wikipédia. Tout cela pour finir par admettre que c'était bien lui le vendeur de ces 300 et quelques photos érotiques. Alors juste une petite parenthèse sur Wikipédia, nous on a essayé de faire une page Wanted Pedo Wikipédia, on a essayé de mettre en place quelques articles sur les réseaux dont je vous parle là, et en fait c'est tout le temps censuré par leur système interne et par leurs administrateurs, notamment vous n'avez pas le droit d'avoir une page Wikipédia à votre nom si la presse mainstream n'a pas fait un article spécialement dédié à votre structure, ce qui n'arrivera jamais. Donc en fait il ne peut y avoir dans Wikipédia que ce que les médias mainstream valide. C'est quand même intéressant de le savoir. Continuons. Le magazine Scallywag, qui a écrit un long article, donc, qui s'appelle Lord McAlpin and the Pedophile Ring, sur les perversions de McAlpin, s'est basé sur les témoignages de trois de ses victimes, des garçons qu'il avait désignés nommément. Puis, deux d'entre eux sont morts dans des circonstances étranges. Apparemment, 17 autres témoignages existent impliquant le dit McAlpin. Et bien que le MI5 était parfaitement au courant, le Lord n'a jamais été arrêté ni interrogé à ce sujet. Enfin, il a été dénoncé par Andrea Davison, une espionne qui était chargée de démasquer les pédophiles dans la police et la justice, enfin une infiltrée, de même qu'un autre conservateur, donc Derek Laud, qu'on a déjà cité. Les deux étaient de grands amis de Margaret Thatcher, et comme l'était d'ailleurs Saville, qui se vantait d'avoir passé une dizaine de réveillons avec elle. Sir Cyril Smith, je vous renvoie à un podcast consacré en particulier à Cyril Smith. Une autre éminente personnalité qui est enfin inquiétée, mais qui est mort depuis déjà un bon moment évidemment, c'est Sir Cyril Smith, un autre politicien conservateur. Il aurait déjà dû comparaître au moins 3 fois devant la justice, mais devinez quoi ? La justice, qui a eu connaissance de ses affaires, l'a laissé tranquille. 3 dossiers différents ont ainsi été enterrés, au moins. Il aurait donc fallu 40 ans pour admettre l'évidence, comme ce fut le cas pour Saville, qui a lui aussi trépassé avant qu'on ne commence à lui chercher des poux. Il faut dire qu'un autre sœur, directeur des poursuites publiques dans les années 70, Norman Skelton, a décrédibilisé les petites victimes, considérant qu'elles étaient suspectes. Et hop, un étouffement de plus. Et aujourd'hui, que dit la police ? Qu'elle est certaine que Smith a abusé de jeunes garçons. Il serait difficile de faire autrement, puisque les victimes de Smith commencent à parler publiquement. Dans les années 70, le MI5 avait des dossiers sur Smith, mais ils n'ont jamais été transférés à la justice. Un petit magazine avait bien publié l'affaire, de même que Scallywag, mais elle est passée totalement inaperçue parce qu'aucun grand média commercial n'a embrayé le pas. Smith a immédiatement menacé de poursuivre ses journaux, de même que ceux qui seraient tentés de répercuter l'info. Personne n'a jamais été envoyé au tribunal, mais cela a suffi à calmer les velléités journalistiques. Pourtant, les accusations étaient circonstanciées. Un témoin dit que Smith l'a violé après 1974 dans un hôtel de Rockdale, la ville dont il était conseiller. D'autres parlent de faits survenus dans les années 80 et 90, et la police a mené des recherches concernant des accusations portant sur des faits antérieurs à 1974. Un réseau de compromission ? Andrea Davison, donc une ancienne espionne qui a travaillé sur les ventes d'armes illégales opérées par le Parti conservateur au Moyen-Orient et a aussi été pensionnaire à la Duncroft Approved School, chez les jeunes filles jugées « difficiles », cette école qui est dans le collimateur pour avoir aidé sa ville à trouver des fillettes dans l'établissement. De fait, plusieurs anciennes victimes qui résidaient dans ce pensionnat ont parlé de viols commis par Saville. Et c'est là qu'elle a trouvé son premier réseau pédophile. Inutile de préciser qu'on a tout fait pour envoyer Davison en prison, avec une arrestation en 2010 et un procès inéquitable. D'autres témoins ont eu moins de chance, comme Malcolm King, décédé dans un accident de voiture assez étrange, juste quand le scandale de Saville a redémarré. King avait dénoncé les abus sexuels commis au Pays de Galles, et selon les éléments objectifs, sa voiture a été sabotée, a priori. Dans les années 90, Davison a dû travailler à dévoiler le même réseau pédophile. Et aujourd'hui, une des personnes qu'elle avait impliquées, Kenneth Clark, est ministre de la Justice et la menace d'un procès. Et Davison sait tout sur l'implication de Clark dans l'étouffement de l'affaire du réseau pédophile d'élite qui sévissait au Pays de Galles. Du coup, Davison a cherché l'aide d'un gouvernement étranger, si possible non ami de la Grande-Bretagne, où elle est désormais carbonisée. Dans les années 90, Davison a mis en évidence l'existence d'un réseau pédophile au Pays de Galles et à la Duncroft Approved School. Évidemment, il ne s'est rien passé depuis. Quand elle a compris qu'on l'avait manipulée pour étouffer l'affaire, Davison a demandé l'asile en Argentine, en 2012. Mais elle a écrit une lettre au Premier ministre Cameron pour l'informer sur la couverture et du réseau pédophile par les services secrets britanniques qui sont également impliqués dans son organisation. On sait par exemple que le MI5 a couvert les accusations contre Smith, qui est donc ex-député, qui a aussi dirigé un foyer du Pays de Galles et a bien sûr été désigné comme violeur d'enfants par plusieurs victimes. Ça ne mange pas de pain d'en parler. Smith est mort en 2010. Dans les années 90, elle a été un journaliste du magazine Scallywag à publier sur cette affaire. C'est là que McAlpine a été citée, de même que les flics du coin, comme Stephen Wynard, qui l'a arrêté en 2010. On sait aussi que le MI5 filmait des viols d'enfants au Kinkora Boys Home de Belfast, où sa ville avait ses habitudes, et où des abus sexuels ont été commis pendant plus de 20 ans. Il se passait la même chose au Pays de Galles dans les années 90. Il était connu que le MI5 emmenait des diplomates étrangers dans les orphelinats du Pays de Galles, et qu'il filmait les partouzes à leur insu. Et ça s'accompagnait également de tortures sur les enfants, parfois jusqu'au meurtre. Une bonne vieille méthode qui a fait ses preuves. Je vous renvoie à Epstein, qui est exactement le même système. Et cela, c'est d'Andrea Davison qui a permis de le faire savoir. En 92, Adrian John, témoin clé dans l'affaire des abus sexuels commis à Bryn Estyn, est mort donc dans l'incendie très suspect de sa maison. Et comme par hasard, on s'est aperçu que son frère Lee a eu accès à des données montrant l'existence de transactions financières, donc je vous l'avais dit, entre les dealers de drogue de la côte sud et les personnes qui géraient un réseau de pédopornes. Et il est mort en 95. Bref, le phénomène est inquiétant et semble avoir pris des proportions dantesques en quelques dizaines d'années. Certains politiques et autres notables sont déjà tombés par-ci par-là pour pédophilie, mais ils ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ne soyons pas naïfs, la même chose se produit en France à l'heure où nous parlons, et c'est pareil en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne et ailleurs. Comment faire pour arrêter cela? Déjà, il ne faut pas compter sur des révélations ou des enquêtes qui vont au fond des choses. C'est ce qui s'est toujours produit jusqu'à présent, et c'est pour cela que toutes ces horreurs continuent. Il ne faut pas compter sur la justice, ni sur aucune institution, la balle est dans le camp des citoyens. Les pédophiles VIP étaient pistés par le MI5 et connus de Margaret Thatcher. On dirait bien qu'il sera difficile d'étouffer tranquillement l'affaire des réseaux pédos au Parlement anglais. Ces derniers jours, pas mal de gens se sont mis à parler dans les médias, et on en apprend de belles. Par exemple, un ancien militant du Parti conservateur a avoué qu'il fournissait des mineurs pour les partouzes de ces messieurs les amis de Thatcher. Un autre ancien du MI5 nous apprend qu'il a retrouvé plusieurs victimes de politiciens et qu'il avait déjà tout dit à ses chefs. Pendant ce temps-là, Cameron a lancé deux enquêtes dont on sait déjà qu'elles n'aboutiront à rien. L'affaire, c'est donc que des dossiers concernant des pédophiles du Parlement anglais ont disparu mystérieusement des placards du Home Office, le ministère de l'Intérieur. On a aussi appris que vers la fin des années 70, début 80, le même Home Office a financé un groupuscule de pédophiles, le Pedophile Information Exchange, PIE, qui réclamait l'abaissement de la majorité sexuelle à 4 ans et s'infiltrait parmi les mouvements LGBT. Je vous renvoie au podcast sur le réseau Righton notamment, et également à une petite vidéo sur le mur vidéo où on voit ces gens passer à la télé et revendiquer ouvertement leurs revendications. C'était l'ambiance, c'était l'époque, comme ils disent. Un ancien du Home Office a expliqué que ce financement était destiné à faire chanter les politiciens pédophiles. On a aussi appris que le président du PIE utilisait son bureau au Home Office comme quartier général du PIE et que tout le monde le savait. Environ 140 députés demandent donc une investigation indépendante sur ces pédophiles politiques, sur le chantage du MI5 et sur tout le reste. Son frère, juge lui aussi, a couvert des pédophiles du PIE et elle-même a couvert un cardinal pédophile, Peter Ball, quand elle était chargée de l'enquête sur l'étouffement des affaires de pédophilie dans l'Église. Donc on parle de Margaret Thatcher et de son frère. De toute manière, ces enquêtes sont cadrées pour ne pas aller chercher bien loin, ne serait-ce que déjà que parce qu'elles s'arrêtent au début des années 90. Actualisation de juillet 2014. Donc, la commission, il y a une dame qui a été mise à la tête de cette fameuse commission de Cameron, qui s'appelait Butler Sloss. Et elle a démissionné le 14 juillet de son poste à la tête de l'enquête demandée par Cameron, et cela suite à des soupçons sur ses liens avec l'establishment. Il faut dire que c'était quand même un peu gros. Elle avait été nommée par Theresa May, la ministre de l'Intérieur de l'époque, qui trouve que les pédophiles doivent pouvoir adopter des enfants, ce qu'elle avait déclaré. Voilà en gros ce qui s'est passé cette semaine. Mais la saga est partie pour durer tout l'été, car beaucoup de gens ont l'air de se mettre à parler, et pas seulement aux flics et à la justice, qui s'avèrent d'une redoutable inefficacité. En effet, ce samedi, on a appris qu'une ancienne recrue du MI5, un certain Barry Trower, a dit qu'il avait été impliqué dans l'affaire des dossiers pédophiles disparus du Home Office. Plus récemment, cet homme s'est mis à dénoncer l'utilisation de micro-ondes, mais c'est un autre débat. En tout cas, il n'a manifestement pas froid aux yeux. De 67 à 78, il a donné des cours dans une prison de Londres car il avait été recruté par le MI5 afin d'obtenir des informations sur des pédophiles politiciens, hauts fonctionnaires, flics gradés, etc., qui avaient des liens avec les détenus. C'est là qu'il a remarqué que nombre de jeunes détenus s'étaient prostitués quand ils avaient entre 11 et 15 ans, et que parmi leurs clients, il y avait des députés notamment, prêts à les emmener dans des virées en week-end, parfois en yacht. Je vous renvoie au podcast sur l'école en bateau et les yachtmen, entre guillemets, donc qui allaient notamment à Jersey, tout ça est encore en lien. Trower a entendu les appels téléphoniques entre ces pédos VIP et les détenus, et il était même présent. Les politiciens leur promettaient la liberté contre leur silence. Apparemment, ils les menaçaient aussi. Au total, Trower a grillé 16 députés, et toutes les informations ont été communiquées à ses supérieurs au MI5. Les révélations ont été dispatchées dans 114 dossiers qui ont tous disparu des bureaux du ministère de l'Intérieur. Je cite « J'ai amené des enfants à des politiciens conservateurs ». Donc là, c'est une autre personne. Les révélations se succèdent très rapidement ces derniers jours, comme ce fut le cas au début de l'affaire Saville, avant que la stratégie d'étouffement ne fonctionne. Dimanche, donc un autre whistleblower, donc un lanceur d'alerte, ancien militant du Parti conservateur, a lâché une autre bombe. Il a expliqué qu'il était chargé de ramener des mineurs pour des partouzes organisées par des politiciens conservateurs. Anthony Gilbertorp explique qu'il l'a dit à Margaret Thatcher il y a 25 ans et qu'elle était parfaitement au courant de l'existence d'un réseau pédophile dans le Parti conservateur. Rappelons ici que Thatcher était une fidèle amie de Jimmy Savile, avec qui elle a passé au moins 11 réveillons du premier de l'an consécutifs et qu'elle l'a fait Lord. Prime à la casserole? Sûrement. Toutefois, une star montante du Parti conservateur a quand même entendu Thatcher lui dire de calmer ses comportements sexuels s'il voulait grimper plus haut. Ah. En effet, il se disait un peu partout que ce politicien présent dans un ministère se tapait des mineurs. 4 ans plus tard, en 86, ce même politique était coincé par la police alors qu'il cherchait des gamins pour des rapports sexuels à la station de métro Victoria à Londres. Mais bizarrement, il n'a jamais été inquiété. Selon Gilbert Thorpe, les partouzes avaient lieu dans un grand hôtel et ils fournissaient des enfants à la demande d'un membre éminent du gouvernement de Thatcher. Les gamins, dont certains avaient une quinzaine d'années, étaient alcoolisés et drogués avant les partouzes. À l'époque, le sexe homosexuel avec des jeunes de moins de 21 ans était prohibé. Gilbert Thorpe ajoutait que l'un des politiciens conservateurs présents à ces partouzes est actuellement en exercice. Parmi les autres politiques présents, il y avait Keith Joseph, ex-ministre de l'Éducation et créateur d'un groupuscule ultralibéral appelé le Center for Policy Studies, donc le Centre pour les études politiques, qui est toujours des noms qui veulent rien dire, à la botte des USA, qui a défendu la casse sociale totale de Thatcher, peut-être parce qu'ainsi il aurait eu davantage de jeunes désœuvrés à mettre dans son lit. Alors c'est vrai que de toute façon, et on peut faire une petite parenthèse, il est clair que plus la population est pauvre, et plus ces gens peuvent se repaître facilement des populations vulnérables, de gens qui sont prêts à vendre leurs enfants, de gens qui sont prêts à se prostituer parce qu'ils n'ont aucune autre solution. En fait, voilà, plus on est comme dans le tiers-monde et plus on retrouve les mêmes phénomènes que dans des villes asiatiques avec des gens qui arrivent de la campagne sans le sou et qui crèvent la dalle dans la rue, quoi. Voilà. Continuons. Rhodes Boyson, prêtre méthodiste, lui aussi anobli, et qui a toujours pris publiquement des positions fermement anti-homosexuelles. Le comble. Il faut dire que c'est une tradition chez les conservateurs arriérés que de se taper de jeunes et faibles tout en prenant l'inverse pour le populo. Boyson était aussi un membre du fameux Monday Club, un groupe très à droite du Parti conservateur dont plusieurs membres étaient des adeptes des partous de l'Elm Guest House, le bordel pour pédos à Londres actif entre 78 et 82 et dans lequel on prostituait des enfants venus des orphelinats du coin. Je vous renvoie au podcast consacré particulièrement à l'Elm Guest House. On peut le citer, il est mort il y a 2 ans. Il y avait eu des accusations selon lesquelles il battait des enfants il y a bien longtemps. On disait qu'il était attiré par les enfants vulnérables. Parmi les pédophiles cités par Gilbert Thorpe, on a aussi le frère de la juge chargée d'investiguer sur les dossiers réseau pédophile VIP étouffé, à savoir Michael Avers, qui en tant que juge a couvert ses amis pédophiles comme Peter Heyman ou Geoffrey Prime. Avers a aussi étouffé l'enquête sur l'Elm Guest House, on comprend aujourd'hui pour quelle raison. C'est Thatcher qui l'avait nommé au poste d'avocat général. Un quatrième larron, cité par Gilbert Thorpe, est le docteur Alistair Smith, chef du Parti conservateur en Écosse, lui aussi mort il y a 2 ans. Il a fait partie de ceux qui ont mis Thatcher sur les rails. C'est aussi lui qui a demandé au jeune militant Gilbert Thorpe de ramener des ados pour les partous de ces messieurs les moralisateurs, qui disaient au peuple de toujours plus se serrer la ceinture alors qu'eux avaient le pantalon sur les chevilles lors des soirées à vomir. Ces messieurs les politiciens conservateurs ne rechignaient pas non plus à se faire quelques lignes de coke. Bien sûr, tout cela se passait dans les années 70-80, ce serait impossible aujourd'hui, surtout que rien n'a été fait pour punir les pervers, bien sûr, c'est vieux. Et puis, comme vous avez remarqué, c'est toujours les noms des morts qui sortent et pas trop ceux des vivants. Continuons. Des meurtres pour étouffer le scandale. L'étouffement de ces affaires est en effet le sport favori des autorités britanniques. L'excellent blog Aanger Fan pose ainsi la question des assassinats politiques destinés à protéger le réseau pédophile VIP et ses membres, afin qu'ils puissent continuer leur compromission. Ainsi en serait-il pour un certain Hayley Neave, politicien proche de Thatcher, qui avait demandé que des éléments corrompus du MI5 et du MI6 dégagent. Mais le 30 mars 1979, on a fait sauter sa voiture. Et il semble que les coupables sont à chercher du côté de la CIA et des services anglais, même si, comme toujours, de manière bien pratique, on a accusé l'IRA, l'armée donc républicaine irlandaise. Un récent documentaire montre que Neave, manipulateur et comploteur, mais en réalité, c'est probablement parce qu'il voulait faire sauter le système de chantage MI5 et MI6 des policiers pédophiles qu'on l'a liquidé. L'ambassadeur anglais aux Pays-Bas, Richard Sykes, a été tué à La Haye 8 jours plus tôt, le 22 mars 1979. Là aussi, on a accusé l'IRA. Ils sont vraiment trop forts, ces mecs. Comme en France, en Italie ou en Belgique, quand on accusait l'extrême gauche d'avoir commis les attentats réalisés par l'extrême droite. Donc là, on fait référence au réseau Stay Behind, à l'opération Gladio, et où on accusait effectivement des groupuscules d'extrême gauche, donc en Italie qui avaient fait certaines choses pendant les années de plomb, mais où on s'est rendu compte que finalement, à la fin, les principaux actes, notamment l'attentat de la gare de Bologne, avaient en fait été commandités par les politiques à des groupuscules d'extrême droite pour mettre une stratégie de tension, de terreur, et reprendre le pouvoir de manière forte. Donc, n'oubliez pas, c'est toujours les attentats terroristes sous false flag, sous faux drapeau. Je vous laisse creuser la question, mais c'est une vieille technique qui existe toujours aujourd'hui. Or, on sait que de nombreux pédophiles anglais avaient déjà fait le pont à l'époque avec les réseaux pédophiles des Pays-Bas. Je vous renvoie au podcast consacré au réseau Amsterdam. On sait que les politiciens conservateurs anglais allaient se taper des gosses aux Pays-Bas et même qu'ils ramenaient des jeunes anglais avec eux dans leurs valises. La même année, Lord Mountbatten, l'oncle du mari de la reine, pédophile et ancien nazi, meurt dans l'explosion de son bateau, alors qu'il s'y trouvait avec 2-3 adolescentes. Pas de bol. Devinez qui on a accusé de ces meurtres? L'IRA, bien sûr, c'est tellement pratique. Or, on sait que Mountbatten se rendait au Kinkora Boys Home, à Belfast. Il s'agit d'un foyer pour jeunes qui a été transformé en bordel pédophile par le MI5, qui avait installé des caméras. Parmi les visiteurs, il y avait les loyalistes, des politiciens anglais et des espions comme Anthony Blunt. Donc les loyalistes, ce sont donc des gens qui étaient du côté des Anglais dans le conflit de l'Irlande du Nord, donc ceux qui étaient opposés à l'IRA. Le scandale du Kinkora Boys Home, et qui a été étouffé, a éclaté en 80. De ce fait, en 73, l'opération Clockwork Orange a été mise sur pied par le MI5 pour contrôler divers politiciens, comme Ted Heath, premier ministre pédophile, adepte des orphelinats du Pays de Galles et grand ami de Jimmy Savile. Mountbatten est aussi celui qui a introduit Jimmy Savile auprès de la famille royale, si bien que Savile est devenu un conseiller du prince Charles. Méfiance des victimes. Ces derniers jours, les activistes qui veulent faire exploser le scandale ont perdu la trace d'un témoin, qui était une victime d'un réseau pédophile puissant à l'orphelinat Beechwood à Nottingham, en Angleterre. Le 9 juillet, vers 21h30, il envoyait un message disant que quelque chose s'était passé et qu'il n'en faisait pas confiance à la police. Les militants qui ont reçu le message l'ont tout de suite rappelé, mais il n'a pas répondu. Et depuis, personne n'a de nouvelles. Ce témoin avait rapporté des abus sexuels et physiques graves dans un orphelinat. D'autres témoins ont parlé de corps d'enfants enterrés autour de l'orphelinat. Manifestement, cette victime a été arrêtée par les flics et les militants craignent qu'on ne l'ait envoyée en asile psychiatrique. En outre, certaines victimes de cette affaire ont dit que la police les avait menacées ou harcelées. Plusieurs dossiers, si pas tous, concernant les abus commis à Beechwood, ont disparu et le tribunal a refusé d'engager des poursuites, bien qu'il ait offert 9 000 livres sterling aux victimes. Eh oui, il n'y a rien, mais on donne de l'argent quand même pour dédommager, et puis pour qu'elles se taisent. Autre élément que nous avons appris ce week-end, des députés étaient amateurs de partouze au Dolphin Square, un gros bloc de luxueux appartements à Londres dans lequel vivaient nombre d'agents de services secrets, de politiciens, de mafieux, et qui se trouve à 2 pas de Westminster, le Parlement britannique. D'ailleurs, pas moins de 59 députés y vivaient à l'époque. L'endroit est un des plus sulfureux et on va y revenir assez vite. Deux témoins sont venus voir le journal Hexarrow séparément pour expliquer que quand ils étaient mineurs, ils ont été embarqués dans une série de partouzes au Dolphin Square où on les a violés. Ces témoins ont pu identifier plusieurs VIP parmi leurs abuseurs. L'une des victimes, Nick, dit qu'il a commencé à aller au Dolphin Square quand il n'avait que 11 ans et il y serait allé une dizaine de fois en 3 ans, vers 1980. À chaque fois, on le faisait boire, puis on le battait et on le violait. Il explique qu'on l'a violé alors qu'il avait la tête sous l'eau, ce qui rappelle cet enfant violé au corral, la tête dans un seau de merde, et qui en est mort. Ou le jeune Jason Swift, étranglé pendant qu'on le sodomisait. L'autre victime avait 13 ans quand il est allé au Dolphin Square. Un député l'a amené à une soirée de dîner, entre guillemets, avec une douzaine de personnes au début des années 80. Après le dîner, plusieurs personnes sont parties, mais un petit groupe d'hommes est resté et l'ont violé. Il a été à d'autres partouzes ailleurs qu'au Dolphin Square. Ces deux témoins ont parlé aux policiers qui travaillaient sur l'opération Fernbridge, lancée en 2013 pour travailler sur les pédophiles de l'établissement, notamment à partir de l'Elm Guest House. Mais ils ne font aucune confiance à la police, si bien qu'ils ne sont pas rentrés dans les détails. On dirait bien que la parole est en train de se libérer de l'autre côté de la Manche. À force de coups de butoir, les victimes et quelques citoyens révoltés pourraient bien faire vaciller tout le système. L'été risque d'être chaud pour le pouvoir politique, mais aussi pour les victimes et ceux qui parlent, et à qui on risque de mettre un maximum de bâtons dans les roues et de pression. Peut-être qu'un jour, on sera aussi en France au point où les gens pourront prendre le risque de parler, car ils seront assez nombreux. Car en France aussi, beaucoup de victimes, toujours pas reconnues, sont forcées de se taire pour leur survie et celle de leurs proches. Où l'on parle de politiciens assassins d'enfants. Jimmy Saville et ses copains défraient ma chronique depuis 2 ans maintenant. Dès le début, on avait évoqué des meurtres d'enfants. Voilà que désormais, ce sont des médias officiels qui en parlent. La police soupçonne pas moins de 17 meurtres d'enfants irrésolus liés au réseau pédophile VIP. Un réseau tentaculaire avec des fournisseurs, des consommateurs, des maîtres chanteurs, dont on n'a pas fini de faire l'organigramme. En tout cas, le voile se lève sur des meurtres sadiques commis par des politiciens protégés par les services anglais et étrangers. Pour bien comprendre, on va tenter de reprendre les faits dans l'ordre chronologique. Plusieurs meurtres ont été commis dans ce dossier. Bien que le réseau soit resté largement impuni, à part quelques hommes de main passés pour des cas sociaux, marginaux et débiles, comme d'habitude, on a par contre laissé filer les clients VIP de ce réseau, qui ont manifestement été protégés par les services de renseignement. Ce dossier est explosif car il montre à quel point une bande de pédophiles sadiques était liée aux pédophiles VIP, ceux du gouvernement, des députés, des agents du MI5 et des flics. En fait, cette affaire, c'est le pendant anglais de l'affaire du trou. L'Elm Guest House. En 79 et 82, une sorte d'auberge chic à Londres a été le point de rencontre de nombreux pédophiles qui violaient des mineurs pris dans les orphelinats alentours, notamment Grafton Close. Je cite « La clientèle était assez variée, mais toujours huppée. Il y avait des stars du showbiz comme Jimmy Savile, Chris Denning ou Cliff Richard, des politiciens comme Cyril Smith, Charles Irving, Harvey Proctor, Peter Bottomley, Ronald Brown, Peter Brook ou Stuart Bell, des hauts membres des renseignements comme Peter Heyman, John Rove ou Anthony Blunt, de hauts magistrats comme Michael Averse, des ministres ou futurs ministres tels que Leon Britton, des avocats de haut vol comme Colin Peters, et des pédophiles notoires tels que Warwick Spinks, John Stamford ou Terry Dwyer. » Fin de citation. En fait, on venait de tous les coins du Royaume-Uni pour violer les mineurs à l'Elm Guest House. Le bordel a cessé son activité en 82 suite à une descente de police où, comme par miracle, on a trouvé sur place qu'un seul jeune type qui avait l'âge légal de faire ce qu'il voulait. Magnifique. Mais une douzaine de victimes avaient raconté à la police les abus sexuels qui se déroulaient dans cette maison cossue d'un quartier chic. L'un d'eux a même parlé de voyage en Hollande qu'on l'avait obligé à faire pour y subir des viols. Car une partie de la bande des pédophiles avait fini par s'expatrier aux Pays-Bas suite à des condamnations en Angleterre. Il a fallu attendre 2013 pour que John Stingmore, le directeur du Grafton Close Home, d'où venaient une bonne partie des enfants violés, soit enfin arrêté, ainsi que le père Max Sweeney, qui violait des enfants dans l'orphelinat. La propriétaire de l'Elm Guest House, Carol Kazir, est morte soi-disant d'un suicide en 90, donc soi-disant par overdose d'insuline, peu après qu'elle ait commencé à tout balancer à des éducateurs dans la liste de noms ci-dessus. Apparemment, elle avait des photos compromettantes de nombreux pédophiles VIP et de fait, il y avait une salle spéciale réservée à la production de pédoporno. Et on sait que le réseau de l'Elm Guest House était lié à celui des pédophiles anglais émigrés aux Pays-Bas et qui tenaient là-bas divers bordels, donc des bars soi-disant gays, où en fait il y avait de la prostitution de mineurs, comme ce fut le cas pour Warwick Spinks par exemple. On a aussi appris que des pubs pour aller à l'Elm Guest House étaient diffusées largement dans un magazine lié au Parti conservateur, et également dans un magazine pédo, donc s'appelait Spartacus, qui était diffusé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires par courrier. D'autres pubs pour l'M-Guesthouse étaient diffusées, donc, oui, et dans des journaux gays également. Bref, on n'a pas vraiment parlé de l'M-Guesthouse dans la presse de l'époque. Le scandale a été évité. Un adolescent de 15 ans, Martin Allen, a été enlevé par un homme en 79 dans le secteur de l'M-Guesthouse. Malgré le fait que 40 000 personnes aient été interrogées, selon les médias, on n'a jamais retrouvé Martin Allen. D'après le frère de Martin Allen, le dossier le concernant a probablement été détruit, et il est convaincu que depuis le départ, que l'establishment est impliqué dans la disparition. Puis en juin 81, le jeune Visham Mehrotra, 9 ans, est enlevé le jour du mariage de Charles et Diana, et cela également dans le même secteur. Quelques semaines après la disparition, le père de l'enfant reçoit un appel d'un jeune prostitué qu'il ne connaît pas et qui lui dit que son fils a probablement été enlevé par un réseau, avec des juges, des politiciens, basés à l'M-Guesthouse. L'enquête aura vite fait le lien entre la disparition de Martin Allen et le meurtre de Vishal Mehrotra, et le bordel de l'M-Guesthouse, où une descente a été effectuée 4 mois après la découverte d'une partie du corps de Visham. Pourtant, elle aussi a très vite été stoppée. Le réseau Sidney Cook. En 84, un garçon de 7 ans, Mark Tildesley, disparaît près de chez lui et est tué au cours d'une orgie pédo. Les pédos auraient pris soin de lui faire prendre un relaxant musculaire avant de le violer, donc ce qu'on appelle traditionnellement les poppers. Celui qui a été condamné pour le meurtre, Leslie Bailey, fait partie de la bande de pédophiles autour de Sidney Cook et a été condamné pour 2 autres meurtres d'enfants, celui de Barry Lewis, tué en 91, et celui de Jason Swift. Il purgeait une peine pour ces 2 meurtres quand il a révélé aussi avoir tué Mark Tildesley, dont on n'a jamais retrouvé le corps. En 85, on retrouve le corps d'un jeune de 15 ans, Jason Swift, qui était passé par un orphelinat d'Islington, un quartier de Londres, où les 12 orphelinats de cet arrondissement abritaient des réseaux pédos couverts par les autorités. Le chef du conseil local, la chef, Margaret Hodge, a été gratifiée du poste de ministre des Enfants, créé rien que pour elle. Jason Swift était, nous dit-on, un jeune prostitué. L'enquête remonte jusqu'à un dénommé Sidney Cook et sa bande de pédos, qu'on nous présente comme des dingues isolés, un peu les Dutroux anglais. C'est dans l'appartement de l'East End, dans lequel la dite bande se retrouvait, que Jason Swift aurait été tué et violé. Sidney Cook aurait proposé à ses copains de violer Jason Swift pour 5 livres sterling. C'est au cours de cette partouze, où de nombreux pédos étaient présents, que l'adolescent a été assassiné. Lors du procès en 89, chacun des membres du gang a rejeté la faute sur les autres, et finalement, il n'y avait pas suffisamment de preuves, uniquement pour condamner 4 d'entre eux, qui ont fait des peines dérisoires. Seuls 4 ont été condamnés, mais en réalité, il y avait au moins 12 pédos identifiés dans ce groupe. En 86, Tony McGran, un adolescent de 13 ans, lui aussi placé dans un orphelinat d'Islington, est retrouvé mort pas loin de chez lui, tué à coups de couteau par un maniaque sexuel, soi-disant. Là aussi, la presse a dit qu'il se prostituait et que sa mère a nié fermement. Et quand bien même, un gamin de 13 ans placé à la charge des services sociaux n'a rien à faire sur le trottoir. Finalement, un jeune de 19 ans est passé pour le tueur. Un tueur isolé, évidemment. Quant à Sidney Cook, il a été libéré après 9 ans, alors qu'il avait pris 19 ans. Puis en 99, il est de nouveau arrêté pour une nouvelle série d'agressions sexuelles sur des garçons, commises entre 72 et 81. Depuis, il serait toujours en prison. On a ensuite appris que l'enquête sur le réseau de Cook, baptisée Opération Horseshield, visait 16 pédos VIP et la police disposait de photos de tout ce petit monde. Une des victimes de Cook a expliqué qu'il était victime de trafic et qu'on l'envoyait jusqu'aux Pays-Bas. Ce témoin explique que Cook embarquait des gamins dans les rues pour les emmener dans des lieux où les pédophiles attendaient afin de les violer. Le dit ministre a enfin été entendu par la police et a confirmé qu'il était présent à ces partouzes. Les médias pensaient son arrestation imminente en février. Puis ça a fait pchit, après une réunion au sommet concernant ce coup de filet et qui finalement ne viendra jamais. La police soupçonnait le réseau de Cook d'avoir commis au moins une 20aine de meurtres, dont 3 seulement ont été plus ou moins élucidés. Ce réseau, qui n'était probablement qu'un pourvoyeur de chair fraîche, comprenait aussi des VIP comme Jimmy Savile et Smith, député aux 144 plaintes restées sans suite, et qui a donc pu continuer sa carrière et ouvrir des foyers ou des écoles pour jeunes, et cela en toute impunité. D'autant plus qu'il était protégé par le MI5. Un ancien ministre est aussi cité parmi les violeurs du réseau. On peut se demander s'il ne s'agit pas de Léon Brittan, ex-ministre de l'Intérieur, qui a fait disparaître plusieurs centaines de dossiers de réseau pédo au Home Office. Quelques pédos proches de Cook ont connu des issues fatales. Leslie Bailey a été étranglée en prison par 2 détenus en 1993. William Malcolm, proche de Cook et Bailey, a été condamné pour les viols de 5 enfants, puis libéré en avance, pour un vice de procédure. Mais il a été vite menacé et tué d'une balle dans la tête sur le pas de sa porte, alors qu'il s'apprêtait à balancer sur le réseau Cook, dont les VIP. On n'a évidemment jamais retrouvé le meurtrier, qui doit donc être à chercher du côté des services secrets. En 2008, c'est un chauffeur routier pédo, Andrew Cunningham, 52 ans, qui a été tué dans sa caravane au sud de Londres. Il est très clair que Sidney Cook a été protégé par les flics puis par la justice, qui a fait en sorte de ne le condamner que pour un seul meurtre, alors qu'on savait pertinemment qu'il était présent lors d'autres meurtres que celui de Jason Swift. Que savait ce pédophile meurtrier et qui lui vaille une telle impunité? Où l'on revient sur ce dossier sordide. On pensait que l'affaire était enterrée, oubliée et que tout cela était loin. Mais cette semaine, le père de Vishal Mehrotra a expliqué que l'enquête concernant l'enlèvement de son fils a été bloquée. La piste menait encore une fois vers ces VIP, qui manifestement doivent rester impunis pour mieux servir les services anglais, dont on se demande pour qui ils roulent, en tout cas pas pour les enfants anglais. Le père de Vishal a transmis à la police la cassette sur laquelle il avait enregistré la conversation avec le jeune prostitué qui désignait les VIP, mais rien ne s'est passé. Une trentaine de personnes ont été interrogées, y compris des VIP, mais la famille n'a été mise au courant d'aucune avancée dans l'enquête. Là-dessus, une ancienne enquêtrice qui a travaillé sur ce dossier a expliqué que, selon elle, l'enquête sur le meurtre de Vishal a été étouffée par les politiciens de Westminster. Pourquoi ? Récemment, une des victimes de la bande de pédophiles VIP a expliqué qu'il avait été violé par des politiciens au Dolphin Square, un bloc de 1200 appartements de luxe dans lequel résidaient beaucoup de gratins. Ce témoin, appelé Nick, qui avait été intégré dans le réseau par son père à l'âge de 11 ans, a dit qu'il avait assisté à 3 meurtres d'enfants, tous des garçons, mais dont aucun ne correspondait à la description de Vishal. Et il a désigné les coupables, des politiciens, dont un est toujours en activité. Un député conservateur a étranglé un gamin d'une douzaine d'années alors qu'il le violait à Londres vers les années 80. Un autre a été tué par 2 types en présence d'un député, ancien ministre conservateur, et le troisième a été carrément écrasé volontairement par une voiture durant l'été 79. Des jeunes des orphelinats du coin étaient recrutés comme prostituées et beaucoup allaient au Dolphin Square. Il y avait tout un système de chauffeurs qui allaient chercher les jeunes dans la rue ou les orphelinats et qui les emmenaient au Dolphin Square pour les partouzes où les politiciens, magistrats, stars du showbiz les attendaient. Ou bien ils étaient convoyés ensuite vers les hôtels comme le Ritz. L'un de ces chauffeurs était, d'après les révélations d'un de ses anciens collègues de détention, un certain Ronald Jepson, condamné pour les meurtres de 3 enfants dans les années 70. Jepson lui aurait expliqué que lorsqu'il travaillait pour une compagnie de limousines de luxe dans le sud de Londres, à l'époque des meurtres, vers 73-74, il avait parmi ses clients des politiciens et des gens puissants, qui étaient aussi des pédos. Les victimes, elles, venaient pour la plupart des mieux défavorisés. Leurs parents étaient parfaitement au courant et touchaient de grosses sommes d'argent. Jepson récupérait les enfants en divers endroits, puis les emmenait dans des villas. Jepson a raconté qu'il avait vu une partouze avec des enfants nus et des politiciens bien connus. La police serait donc en train d'enquêter sur 200 disparitions de garçons de cette tranche d'âge, et qui correspondent aux descriptions de ces 3 enfants assassinés entre 77 et 83, afin d'identifier ces victimes. Ce week-end, 2 anciens policiers de Scotland Yard ont déclaré que des enfants avaient été tués par des politiciens en cours d'orgies pédophiles. Des journalistes ont déclaré qu'ils ont été empêchés de diffuser certaines de ces affaires, et cela au nom de la sécurité nationale, secret défense, et oui. Cela via une procédure exceptionnelle, la D-notice, la notice D, qui est émise par le gouvernement en 84 quand le député Geoffrey Dickens avait commencé à parler du réseau VIP. 2 policiers, avertis de ce qu'il se passait à Dolphin Square par un politicien et qui lui avait promis d'enquêter, sont revenus lui dire peu après que leur hiérarchie leur avait interdit de creuser sur cette affaire. Un officier des renseignements lié à Scotland Yard, la Special Branch, la branche spéciale, a expliqué à des inspecteurs qu'il y avait au Parlement un réseau pédophile qui était intouchable et que même Scotland Yard ne pouvait rien faire contre eux. Pourtant, on savait bien que des enfants étaient tués par ces tarés. Bref, il va falloir un miracle pour que l'enquête aille au bout de ce dossier. Trop de gens sont impliqués, trop de gens savent et n'ont rien dit. Or, on a bien compris que la soi-disant grande enquête du gouvernement n'a pas pour but d'aller au fond des choses. Seuls les médias et quelques témoins courageux ont permis que certaines choses soient mises à jour, et rien ne dit que cela va changer. Le gouvernement ne réagit pas, toujours embourbé dans sa grande enquête pour laquelle, manifestement, aucun juge ne sera jamais assez éloigné des réseaux VIP qu'il devra mettre en cause. Mais il faudra quand même quelques réponses à certaines questions. Par exemple, pourquoi a-t-on déjà arrêté et condamné depuis 2012 des présentateurs télé, des DJ, des popstars, des prêtres, des directeurs d'orphelinats, des lampistes divers et variés, mais jamais aucun politicien, alors qu'ils sont tous cités dans de nombreux dossiers à travers tout le pays? Pourquoi les renseignements ont-ils systématiquement protégé ces pédos, y compris des tueurs d'enfants, élus du peuple? Les réseaux pédo-VIP ont-ils été l'objet de chantage, pression et autres manœuvres durant leur carrière? Pourquoi ces meurtres? Est-ce que c'est juste du sadisme ou bien y a-t-il un système de croyances derrière, par exemple des pratiques sataniques? Pour qui roulent les services qui protègent cette clique de pervers? Et où sont tous ces dossiers disparus? Qui les a sous quel coude? Actualisation de novembre 2014. John Allen, qui dirigeait une chambre d'orphelinat au Pays de Galles, donc celui visité par Cyrus Smith et Saville, vient d'être condamné pour quelques-uns des viols qu'il a commis sur les enfants dont il avait la charge. Chaque jour, il violait des garçons et laissait entrer plein de pédos dans les murs. Il a fallu 40 ans pour qu'Allen passe enfin au tribunal.